Bonjour Dominique.
Bonjour Vanessa et Lucas.
Nous sommes au Festival international du film de fiction historique.
Oui.
Où vous venez accompagner, où vous avez présenté le film et débattu hier sur le film Captive.
Oui.
Comment ça s'est passé la rencontre avec le public?
Ah ouais, j'ai trouvé que c'était une soirée très joyeuse. J'avais l'impression qu'on était ensemble et qu'on discutait, quoi. Avec le public, j'avais des copains dans le public qui étaient venus. Ça me faisait très très plaisir. Je sais pas, je me sentais bien. Je me sentais bien avec Josiane, bien avec Arnaud, bien avec Étienne, et bien avec tous les gens qui étaient là, en sachant les différencier. J'ai bien aimé les prises de parole, j'ai bien aimé la voix des gens, la façon dont ils prenaient la parole, la façon dont ils l'arrêtaient, parce qu'il faut pas être trop long. Josiane, ça m'a fait très plaisir de la faire rire.
Oui, vous avez commencé dès le début hein, en présentation.
Quand
vous avez présenté le film,
oui.
Vous avez expliqué vos péripéties pour pouvoir venir ici. Quoi.
Ah ouais, c'était quelque chose. Mais vous savez, quand il arrive une galère, en fait, il y a quelque chose en nous qui est prêt à s'effondrer. Et il y a quelque chose qui hésite entre s'effondrer et profiter d'un moment imprévu. Et bon, j'ai eu la chance de me rendormir le matin et le sommeil, c'est de me rendormir, je me suis réveillée beaucoup trop tôt, 3h du mat, en me disant « Oh là là, dans quel état je vais être ce soir ?» Et puis j'ai eu la chance de me rendormir deux, peut-être trois fois.
Ah oui.
Avec des rêves et tout. On ne sait pas si on s'endort un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure, on ne sait pas. Mais il y a des rêves incroyables. Et donc quand tu te réveilles de ça, ben il y a comme une sève dans ton corps qui t'emmène. Et quoi qu'il se passe, t'es à un espèce d'endroit qui où finalement quoi que ce soit qui ait lieu, ce qui est prévu ou ce qui n'est pas prévu, tu le prends avec la joie. Et bon, j'ai failli me dire « Oh merde, galère, galère, galère !» Et puis non, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est retourné dans « Oh, bah, écoute, je suis dans l'aéroport, je plane. » Je n'ai rien à foutre là, à part attendre. C'est beaucoup de temps perdu, j'ai des trucs à bouquiner, mais j'arriverai pas à les bouquiner. Si je m'assois 2 secondes, je vais essayer de lire quelque chose, ne pas y arriver, commencer à m'énerver, à avoir envie de fumer. Et je n'ai pas arrêté de marcher, comme un nomade. Comme si j'étais nulle part, et que je ne fais qu'une chose, c'est marcher. Et de là, il y a des gens qui venaient à moi, me reconnaissant, et qui me disaient, je peux prendre une photo avec vous. J'ai dit, c'est quoi, photo? Pourquoi pas? Mais je marche, alors emboîtez-moi le pas et faites votre photo en même temps. et puis voilà, puis j'ai commencé à parler avec pas mal de gens, comme ça. Et finalement, à dire que... Bah, que j'allais prendre, oui, comme il faut toujours aller quelque part. Bah oui, je vais à Toulouse. Et puis j'aime bien l'accent toulousain, il est reposant. Je sais pas, il est reposant. Et donc, je m'intéressais à tout. Bah oui, je vais présenter un film. Et vous faites quoi de l'aéronautique? L'aéronautique?
Ah, le fameux Olivier.
Non, David.
David.
Et de l'aéronautique, oh là là. Et voilà, donc j'ai commencé à poser des questions. Puis il avait des copains là qui faisaient de l'aéronautique aussi. Donc on s'est retrouvés. Ils avaient envie de photos, je les ai fait marrer. Puis petit à petit, j'ai fait marrer beaucoup de gens à l'aéroport. C'est venu tout seul jusqu'au moment où mon avion n'arrêtait pas de reculer dans le temps. Un quart d'heure, puis encore un quart d'heure, puis encore un quart d'heure, puis 20 minutes. Je me suis dit, mais nom de Dieu, il va pas partir cet avion. Et comme le monsieur de l'aéronautique, je lui avais dit qu'il était attendu, À un moment, je le re-rencontre dans l'aéroport et je lui dis, oh, écoutez, qui demande rien n'a rien, hein. J'ose. Vous avez un avion à 18h. Depuis que vous êtes arrivé, il n'a pas bougé. Il est resté à 18h. Le mien, il était à 16h. Puis il est passé à 17h25. Puis il est passé à 6h moins le quart. Puis il est passé à 6h. Puis il vient de passer à 6h20. Je crains le pire. Est-ce que vous me donneriez votre billet et votre place et prendriez la mienne et attendriez à ma place? C'est pas un cadeau que je vous fais. Vous êtes moins attendu que moi, apparemment. C'est-à-dire, vous êtes attendu, ça, c'est sûr. Vous me l'avez pas dit, mais vous êtes attendu. Tout le monde attend quelqu'un. Et tout le monde a besoin que quelqu'un l'attende. Mais vous n'êtes pas la demi-heure près. Donc j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et aujourd'hui, le monde tel qu'il est brut. Il est brut, nom de Dieu. Brutal. S'il y a quelqu'un qui accepte ma proposition, c'est dingue. L'humanité existe encore. Et il m'a dit, venez, on va voir au central si on peut changer les billets. J'ai dit, oh, c'est génial, même si on n'y arrive pas, c'est ça que je voulais. C'était que quelqu'un
un pas en avant.
Écoute ça et me dise, et pourquoi pas, d'accord, et si ton avion part pas, bah, je prendrai un hôtel à Paris et je rentrerai demain matin. Au moins, il me sera arrivé quelque chose. Voilà, ça m'a foutu la joie pour
c'est
la soirée.
Beau, oui.
Franchement. Voilà.
Alors, on parle du film Captive, où vous jouez Émilie.
Oui.
Ce rôle très compliqué. Alors, la première scène où on vous voit dedans, c'est quand vous arrivez vers Fanny, qui est jouée par Mélanie Thierry, et vous êtes très menaçante. Comment vous avez appréhendé ce rôle? Comment vous avez... Est-ce que vous êtes nourrie des textes, de ce qui avait existé?
Donc, oui. Moi, j'adore la recherche. En fait, quand on décide un projet, quel qu'il soit, que ce soit on va marcher dans la montagne, pour, on va faire le pic machin, ou on va faire un film comme si, qui parle de ça, quel que soit le projet, ce que j'aime, c'est aller vers. Et j'aime bien savoir qu'un projet va avoir lieu longtemps avant. Parce que tout ce temps avant, je vais vers. Des fois, on m'appelle du jour au lendemain, je trouve ça dommage. Le plus crucial, c'est ce qui se passe avant. Avec Arnaud, c'est un peu différent parce qu'il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant tout du long. Et même là, quand je le regarde, regarder l'accueil de son film, je le trouve intéressant. Son profil est intéressant. J'entends quelque chose de rare. Je vois pas quelqu'un qui attend quelque chose de convenu. Une joie convenue, le public adore, ça applaudit comme des malades, ça va faire un box-office comme un malade. Non, c'est pas ça, il est pas là. Il est autre part. Et je regarde ça avec plaisir, c'est la continuation du boulot. Pour finalement, qu'est-ce qu'on cherche tous, c'est à se rencontrer, quoi. Des fois, il y a des gens qui me disent, oh Dominique, je prépare un truc, je vous vois dans tel rôle. Je dis, ah bah, ouais, c'est bien. Et est-ce qu'on peut se voir? Et je dis, mais ça sert à quoi? Et si vous me voyez déjà dans le rôle, ce serait bien qu'on se rencontre avant. Je dis, vous savez, se rencontrer, c'est drôlement difficile. Hein. Faire un film, c'est difficile, mais alors se rencontrer... Alors moi, je fais des films pour voir si par hasard, le long de cette route, va y avoir une rencontre. Et si c'est une rencontre, ça fait plaisir, pas pour un film, ça fait plaisir pour la vie, quoi. Voilà. Donc, après, j'accepte absolument de les rencontrer. C'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Mais moi, quelque part, c'est la rencontre qui m'intéresse. Si quelque chose a lieu, la rencontre a lieu. Si la rencontre a lieu, quelque chose a lieu. C'est pareil, quand tu joues avec une actrice, tu la regardes, ou un acteur, t'es dans un rôle qui raconte une histoire, mais c'est quoi l'histoire ? On connaît tous, en chacun de nous, un endroit où ça ne bouge pas. Quoi qu'il se passe, c'est cet endroit que j'avais presque, je peux l'avoir beaucoup plus, dans l'aéroport. Finalement, je l'ai rattrapé, cet endroit, alors que j'aurais pu m'énerver, être impatiente, et tout ça, jusqu'au soir, quoi. Eh ben non, j'ai rattrapé l'endroit où, quoi qu'il se passe, il se passe rien, il se passe toujours autre chose. C'est autre chose qui se passe. Donc, je vais toujours chercher un endroit, et là, j'y suis pas allé mollo, quoi. Des films où je me dis, fais ton job, comme tout le monde l'attend, fais ton job. De toute façon, c'est un job, comme tout le monde, il y a quelque chose qui est convenu et attendu d'ores et déjà, c'est pas la peine d'amener autre chose. Et puis il y a des gens, comme avec Arnaud, où ça vaut la peine d'aller chercher, quoi. Et là, ça valait la peine. Puis bon, j'avais sans doute, il y a des périodes, en nous, en dehors de la personne qui vous tend la chose, il y a des périodes où on a envie de chercher. Pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui ose se pencher. La terre est penchée, là que c'est comme ça. Elle tourne. Elle tourne autour du soleil. On est dans une galaxie qui elle-même est en train de se diriger vers je ne sais quoi. Pendant que l'hyperamas de galaxies est en train de passer centripète, centrifuge, j'en sais rien. Tout ça, c'est dans un bordel de cordes. Je sais pas si vous avez entendu parler des cordes dans le, comment on appelle ça, la science.
La théorie des cordes, oui.
Voilà, la théorie des cordes. Oh, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Qu'est-ce qui se passe au moment où on se regarde, quoi? Il se passe rien. Les cordes, elles en ont rien à foutre qu'on se regarde, quoi. Donc moi, au moment où on se regarde, ce premier regard avec Mélanie, c'est dire, quelque part, tu sais comme moi qu'il ne se passe rien. Et qu'il se passe en tout cas bien autre chose que ce que tout le monde sait qu'il est en train de se passer. S'il y a bien une chose qui ne se passe pas, c'est ce qui est évident qui se passe. Et quand on se rapproche de cet endroit, d'un centre où ça ne se passe pas, il y a Maurice Blanchot qui dit une phrase qui dit « Ah, si l'événement pouvait être en train de ne pas avoir lieu. » Voilà. Donc quand je tourne vraiment, quand je travaille vraiment, je m'approche d'un endroit où nous ne sommes pas en train de tourner un film. Je dis tout ça c'est de la merde, tout ça c'est du mensonge. Et voilà. Et je regarde Mélanie avec ce savoir-là en essayant, parce que j'ai besoin du partage, de savoir où elle a ce savoir-là aussi, alors même qu'elle joue un autre rôle que moi, et comment elle peut partager ce savoir-là, cette chose qui ne bouge pas en nous, au sein d'un personnage qui lui-même a cette chose qui ne bouge pas en lui, face à une nana qui a cette chose qui ne bouge pas en elle et qui joue un personnage qui elle-même a cette chose qui ne bouge pas en elle. Voilà, je suis là et quand je vous disais, j'aime me pencher. Si je dis aujourd'hui qu'est-ce que c'est l'acteur, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit. On se répète souvent les êtres humains, mais on essaie des fois d'arrêter de répéter, bifurquer. Ben ce matin je me disais, c'est quelqu'un qui ose se pencher comme tous les êtres humains en sont capables. Sauf que les êtres humains, souvent, ils ne tombent pas parce qu'ils ne se penchent pas. Moi, j'ai besoin de me pencher et de ne pas tomber. mais j'ai besoin de risquer de tomber. Donc je me penche, c'est-à-dire je me penche sur la folie humaine. Être humain, c'est fou, quoi. C'est complètement fou. C'est une chose, la condition humaine est intolérable, insupportable, et tellement joyeuse, et tellement, il y a tellement d'effroi, et tellement de joie. On est canalisé tous les jours dans des joies, avoir plus de salaire, avoir plus de, une maison plus grande, plus d'enfants, plus de considération, plus de ceci. Mais dans l'effroi, c'est autre chose que la peur de perdre. Perdre quelqu'un, perdre sa bagnole, perdre son pognon, perdre sa maison. L'effroi et la joie, la lumière, c'est autre chose que « Ah, j'ai une grande maison, ah, j'ai un super mec, ah, j'ai ceci, cela ». Voilà, j'aime toucher à l'effroi, j'en ai besoin. J'aime toucher à la lumière, la joie qui n'a rien à voir avec celle de tous les jours. Et quand je joue un personnage, j'essaye de m'approcher de cet endroit où, quel qu'il soit ce personnage, il a quelque chose en lui qui a besoin de se pencher, de faillir tomber, d'avoir presque rencontré ce que c'est que tomber et de ne pas tomber. Je sais pas ce que je vous raconte, ça vous raconte quelque chose?
Ben oui, j'écoute avec attention. Qu'est-ce que...
Ça te raconte quelque chose, Lucas?
Oui, ça me raconte quelque chose. Parce que oui, je vois tout cet aspect-là. Et quand vous avez parlé de l'aspect un peu physique aussi, c'est des choses que j'ai pu être amené à étudier pendant les études. Donc,
Ah ouais, d'accord.
Parce que j'avais fait des études en ingénierie aéronautique et spatiale, justement. Donc ouais. C'est pour ça que je vois bien tout ça, ouais.
D'accord. Parce que quand on parle vraiment, quand on essaye de partager avec des personnes une pensée intérieure, on a du mal à dire ce que c'est, quoi. On n'a pas les mots pour le dire, alors des fois on se répète, etc. Et là, je le dis comme ça aujourd'hui, je frime pas, j'en ai presque rien à faire d'être enregistré, quoi. Mais par contre, arriver à dire quelque chose, ça me passionne d'essayer d'arriver à voir. Mais quand je parle comme ça, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas où vont mes phrases, où elles vont, je ne sais pas.
Vous vous laissez porter, en fait.
Oui, c'est-à-dire c'est mes mots qui entraînent ceux d'après pour essayer d'attraper quelque chose. Bon, ben, jouer, c'est toujours un peu quelque chose comme ça aussi.
Et là, dans Captif, qu'est-ce que ça vous a fait d'incarner ce personnage du peuple, cette femme qui est internée dans à l'hôpital Salpêtrière, un hôpital psychiatrique? Qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que c'est une femme qui a vraiment existé, enfin, de ceux qui ont vraiment existé, cette femme de rue qui dit, voilà, les conditions qui sont à l'intérieur ici sont mieux que celles qui sont à l'extérieur.
Oui, c'est vrai, dans la scène, c'est une très jolie scène où elle dit ça, hein, où on est en train de peindre dehors. J'adore cette scène.
Moi aussi.
Je pense que ce matin, je me disais un truc. Je me disais, en fait, on choisit tous un endroit pour avoir envie d'en partir. Si on n'avait pas un lieu où on était attendu de telle ou telle manière, que ce soit chez soi ou au boulot, il n'y aurait pas en nous quelque chose qui est là de se vouloir constamment partir, fuir. Mais si on n'a pas d'endroit d'où vouloir fuir, c'est très difficile d'être toute la vie en train de fuir sans avoir un lieu à fuir, une identité à fuir. Parce que fuir un non-lieu, c'est accepter d'être nulle part. Et accepter d'être nulle part, c'est drôlement difficile. C'est-à-dire, c'est un rapport, c'est un trait de liaison entre la vie et la mort que j'adore sentir, hein. Je sais l'attraper. Je sais l'attraper. Et j'en ai besoin. J'ai besoin de le connaître, sinon tous les jours, de le reconnaître en moi. Mais voilà, l'idée, alors je sais pas, je suis parti de votre question, qu'est-ce que ça vous fait? Donc je pense que pour vouloir l'extérieur, pour vouloir fuir, quelque part il faut être à l'intérieur. Arnaud il dit un truc, il y a quelque part la production qui l'a obligé à suivre une sorte d'histoire où Fanny veut quitter veut arriver à sortir avec sa mère,
oui.
Et que finalement elle a une vue comme ça, une intention quoi. Et il dit, je l'ai entendu dire, oui, ça me passe un peu au-dessus de la tête cette histoire. Et puis finalement ça l'a tenue, c'est-à-dire c'est une sorte d'obligation, de prison, qui lui permet en fait d'aller au bout du regard qu'il souhaite, mais jusqu'à l'horizon, quoi. C'est comme si t'es en prison. Je lui dis un truc. Moi, j'ai perdu mon père il y a pas longtemps. C'est quelqu'un, j'ai eu l'impression d'être en prison toute ma vie. Toute ma vie. Dans le regard de cette personne qui voulait que je sois une personne précise, avec une pensée précise. Et quand il est mort, c'était terrible. C'était inénarrable. Mais en même temps, c'était des murs qui s'écroulaient autour de moi. C'était quelque chose comme une joie monumentale et un effroi monumental. Et vivre après sans ces murs, alors que j'avais cherché l'horizon comme une malade, la pensée, pouvoir penser avec un père comme ça, c'était difficile. Et il voulait toujours rattraper ta pensée dans les choses qu'il connaissait. Et c'était quelqu'un qui a une présence qui fait que, qu'il soit là ou pas là, ça te poursuit, quoi. Et quand il est parti, j'ai accompagné jusqu'au bout. Et j'avais l'impression de... Plus il s'approchait de la mort, plus j'avais l'impression de reconnaître l'homme que j'avais toujours voulu connaître dans ma vie. Celui qui ne mettait pas des parois à sa pensée. Il parlait presque plus, mais ce qu'il disait. Et comment il me regardait. Et tout d'un coup, je pouvais penser avec mon père, quoi. Je pouvais vivre avec mon père. Et il est parti. Donc au dernier moment, j'ai vraiment... On peut dire aimer cette personne comme il m'a jamais permis de l'aimer, ou comme j'ai cru l'aimer quand j'étais petite, et puis un jour je me suis aperçue d'un homme qui me sclérosait, enfin qui m'enfermait. Mais alors, quand t'as appris à être en prison et à voir l'horizon avec des murs autour, putain, mais va voir l'horizon après quand les murs ils sont plus là. Nom de Dieu, putain, y a de quoi devenir dingue. Et ça veut pas dire que j'ai besoin de reconstruire des murs, mais je pense que l'intérieur est très important pour vouloir l'extérieur. Et vouloir l'extérieur, vouloir s'échapper, c'est toute la vie. Toute la vie, on veut s'échapper. Alors, en même temps, Vanessa, tu me dis... c'est quoi de dire cette vie elle est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur? C'est aussi une condition sociale. Là, je parle un peu, je sais pas si on peut dire philosophiquement, métaphysiquement, je sais pas quoi. Bon, il y a la condition sociale. Alors là, c'est vrai, c'est terrible. Moi, j'ai connu quand même cet endroit où on exige de toi de devenir quelqu'un dont on est fier. Alors que moi, Je veux dire, on me demandait, tu vas bosser avec qui, à qui, il est connu le mec, et box-office et tout le bordel. Et moi, quand j'ai commencé à voir les gens dormir dehors, dans la rue à Paris, il y a quelques années, et commencer à voir les gens passer devant, sans rien à foutre, moi, mais j'aurais laissé ma journée, j'aurais laissé mon boulot pour aider ce mec. C'était ma première réaction. C'était, on peut pas aller bosser alors qu'il y a un mec qui est en train de crever dans la rue, quoi. Et petit à petit, comme j'avais peur de mon autour, j'avais peur des bourgeois. J'ai peur des bourgeois. J'ai peur des gens qui sont en fonction et qui sont sûrs que leur vie, c'est ça. J'avais peur des bourgeois dont je me disais, il faut apprendre à pousser ces émotions-là et... non, il faut que tu ailles faire ton travail d'actrice parce qu'il faut grandir en tant qu'actrice, parce qu'il faut ceci, cela, et ne t'arrête pas devant des gens qui dorment dans la rue ou qui vont claquer dans la rue. Mais c'était terrible pour moi. Et je regardais les gens qui passaient et qui avaient appris je ne sais où à s'en foutre totalement. J'ai appris à m'en foutre totalement. Mais j'ai jamais oublié cet endroit où je m'en foutais pas du tout. Et qu'aujourd'hui, ce soit coutumier de voir des gens crever dans la rue, hein, même s'ils dorment ou je sais pas quoi, ils vont bientôt crever, et tout le monde passe devant, prend son métro et tout ça. Bon. Mais moi, quand je me disais, mais le clodo en bas, il faut que j'aille passer ma journée avec lui, à le sortir de ce bordel. Mais je pensais aux bourgeois et à la peur des bourgeois. Je pensais à ma famille, qui s'ils me voyaient m'occuper des clodos toute la journée, j'avais peur de la bourgeoisie de ma famille, de ce qu'était capable de faire mon père. S'il avait une fille qui passait ses journées avec des clodos pour essayer qu'il soit plus clodo. Je vous jure, quand je parle de conditions sociales, par exemple ça, dont je vous réponds comme ça, ça fait pas toutes mes réponses. Hein. Je suis allée à Sarajevo à un moment où la Bosnie, là, il y avait tout le bordel avec la Serbie et tout ça. En 93, on me dit, Dominique, tu viens avec nous. Je dis, écoutez, qu'est-ce que c'est ce bordel d'aller faire les zouaves à Sarajevo si vous voulez chercher pourquoi la Tchécoslovaquie, comment ça se fait que des choses comme ça se passent dans le monde? On peut très bien chercher à Paris. Je veux bien chercher avec vous, discuter toute la journée, écrire des choses et tout, mais aller faire le pitre à Sarajevo. Et puis j'ai rencontré Véronique Naumgrapp, dont après j'ai appris qu'elle était la fille, il y a très peu de temps, la fille d'un grand mec. Qui a bientôt 100 ans, là. Véronique Naumgrapp, et j'ai lu un article, et cette femme m'a fait réaliser c'est une journaliste, m'a fait réaliser le rapport entre mon métier et un rapport politique à l'histoire, disons. Et je suis partie dans un avion militaire, avec Michel Deguy, un écrivain d'aujourd'hui. Il y avait des écrivains, il y avait un metteur en scène connu qui est mort récemment, un autre, etc. J'ai vécu avec les Bosniaques pendant qu'il y avait les tirs, là, vous voyez, comment ça s'appelle déjà, les snipers. J'allais enterrer les gens, j'étais conviée à des commissions internationales et tout le bordel. Je passais mon temps et les gens de Sarajevo me disaient « Mais on dirait que t'es avec nous depuis 3 ans ». Parce que j'étais complètement ailleurs. Les mecs qui m'avaient emmené, ils avaient l'intention de quoi? Ils avaient une intention. L'intention de Sarajevo, ville culturelle. Très prochainement, je vous laisse brancher. Moi, rien à foutre de tout ça. J'avais peur de rien. J'avais peur de rien. Les gens me disaient, mais tu es avec nous depuis 3 ans. J'étais pas là, quoi. C'est 10 ans après que je me suis dit, mais j'étais à Sarajevo. Où j'étais? Où j'étais dans ma tête? J'avais peur de rien. J'avais pas peur des snipers. J'allais enterrer les morts toute la journée. Quand je tombais dans un trou de bombe, j'éclatais de rire. Et j'allais au QG de la guerre, là, au QG, je sais pas quoi, où t'avais des militaires, des machins. J'étais occupée par ça quand je suis rentrée à Paris. Je devais travailler, aller au théâtre, faire mon boulot d'actrice. Alors qu'il se passe ça et que ça a enchaîné sur un autre truc qui était dingue. Je me disais, mais comment les mecs, ils peuvent aller au boulot? Comment en bas, dans la rue, ils peuvent aller au travail et se parler et tout ça? Pareil pour les événements de 2015, Charlie Hebdo. Je rencontre dans le Prisu une bourgeoise qui dit oh, « c'est terrible, c'est terrible ». Je dis « mais madame, c'est terrible depuis très longtemps, il faut que ça s'approche de vous pour vous commencer à vous dresser parce que vous avez peur, mais c'est terrible depuis très longtemps ». Alors elle m'a traité de tous les noms, bien sûr. Voilà, j'attends pas que ce soit terrible jusqu'à nous, vous voyez, depuis longtemps, mais je sais pas quoi faire, j'avoue. Et quand je fais un boulot avec Arnaud, j'essaye de dire un tout petit peu de ça, au travers de ce qu'on me donne comme personnage. J'espère que j'ai répondu un tout petit peu.
Merci beaucoup.